Vous êtes sur RTL.
À chaque fois que Wolfgang Petracchi avait besoin d'argent, il peignait un nouveau faux pour en gagner. Et là, il vivait très bien dessus pendant plusieurs mois.
Bonsoir. Des tableaux de maître plus vrais que des vrais, au point même que l'épouse d'un artiste décédé dira qu'elle avait sous ses yeux la plus belle œuvre peinte par son mari. Des experts abusés, des dizaines de toiles vendues à des collectionneurs fortunés et à des musées pour des centaines de millions d'euros. Ce soir, dans l'heure du crime, nous allons remonter la piste de l'un des plus incroyables couples de faussaires. À ce jour, la plus grande escroquerie du marché de l'art. Ils s'étaient surnommés eux-mêmes les Bonnie and Clyde de la peinture. Jusqu'en 2010, l'année de leur arrestation, Wolfgang et Hélène Beltracchi, un couple d'Allemands, ont ainsi amassé une fortune considérable en écoulant des tableaux qu'ils auraient miraculeusement retrouvés dans une collection perdue. Des œuvres réalisées en fait par la main experte de Wolfgang et présentées à la vente par l'astucieuse Hélène. Ces millionnaires du faux menaient grand train de vie dans des propriétés de nabab. Les Beltracchi, faussaires de génie sans doute, mais surtout escrocs ingénieux. Ils avaient su s'attirer la confiance des spécialistes et des clients grâce à un scénario, on va le voir, défiant l'imagination. Comment, pendant plus de 20 ans, ce couple a-t-il pu tromper autant de monde? Pourquoi une telle supercherie où des sommes gigantesques étaient en jeu n'a été découverte que si tardivement? Pourquoi enfin une telle mansuétude judiciaire pour Wolfgang et Hélène Beltracchi? Nous essaierons de répondre à ces questions ce soir en direct avec nos invités dans l'heure du crime. L'affaire Beltracchi, faussaires et escrocs, l'enquête de l'heure du crime. Ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Beltracchi, Wolfgang et Hélène Beltracchi, des faussaires qui, pendant 20 ans, ont eu pignon sur rue et leurs entrées dans le monde de l'art jusqu'à ce que leur course folle s'arrête à l'été 2010. Ce 27 août 2010, Wolfgang et Hélène Beltracchi, 59 et 52 ans, sont de passage dans leur luxueuse villa qui domine la ville de Fribourg en Brisgau, au cœur de la forêt noire. Ils viennent tout juste de rentrer de France, de Metz, dans l'Hérault, où ils possèdent une autre splendide demeure dotée d'une piscine olympique et d'un jardin royal, le domaine des Rivettes. Les Beltracchi sont rentrés en Allemagne un peu précipitamment. Ils savent qu'ils sont visés par une enquête fiscale sur leurs activités de vente de tableaux et ont décidé de venir s'expliquer devant le procureur de Cologne. Avant cela, ils veulent aller au restaurant avec leurs enfants, Francisca et Manuel. Le Land Rover familial ne va pas aller très loin. À peine arrivé au centre-ville de Fribourg, il est entouré d'une dizaine de véhicules de police banalisés, toutes sirènes hurlantes. Des hommes cagoulés de la police judiciaire de Berlin, armés, tenant parfois des chiens en laisse, bondissent autour du Land Rover. Les policiers ne savent pas qui sont ces Beltracchi, mari et femme, aux vagues airs de hippies ou d'artistes fortunés. Pour eux, c'est un couple de dangereux malfaiteurs. L'ordre de mission précise qu'ils sont poursuivis pour une vaste escroquerie en bande organisée aux ramifications internationales. Wolfgang et Hélène Beltracchi sont menottés et transférés à Cologne. En garde à vue dans les locaux de la PJ, puis devant le procureur de Cologne, les Beltracchi ne sont pas surpris par les accusations. Ils ne se doutaient toutefois pas que l'enquête discrètement menée sur leur compte sans éveiller leurs soupçons était aussi conséquente. Leur dossier fait presque 800 pages. Il égrène des faits de dissimulation fiscale, le fruit d'une escroquerie à grande échelle, la vente de faux tableaux de maître sur laquelle ils vont devoir s'expliquer, des centaines de millions d'euros en jeu. Quand l'arrestation va être connue, l'affaire révélée, c'est tout le marché de l'art qui n'avait pas détecté ces incroyables faussaires qui va trembler sur ses bases. Bonsoir Philippe Sprang.
Bonsoir.
Vous avez été journaliste, auteur de très très nombreuses enquêtes sur le milieu de l'art et notamment sur le pillage des nazis pendant l'occupation à propos des spoliations. Vous avez fait beaucoup d'enquêtes dans ce sens-là. On va reparler d'ailleurs des spoliations dans ce dossier parce qu'il y a une amorce, si je puis dire.
Oui, il y a un arrière-fond.
Il y a un lien qu'on va éclairer très vite. Un mot tout d'abord, Philippe Sprank, sur ce couple, Wolfgang Beltracchi, très jeune, doué par la peinture, et d'ailleurs il ne s'appelle pas Wolfgang Beltracchi, je crois.
Non, il s'appelle Fischer. Plus tard, il prendra le nom de famille de son épouse. Et lui, il vit dans un milieu modeste du centre de l'Allemagne. Son père restaure des peintures dans les églises et fait aussi des copies de Rembrandt, de Picasso, de Cézanne, des pâles copies, des petites copies qui vont comme ça.
Ce qu'il faut dire, Philippe Sprank, c'est que c'est un surdoué de la peinture, Wolfgang.
Wolfgang, il ne fait pas de la musique, mais il fait de la peinture. Donc, il est à côté et il voit son père qui fait ces trucs-là. Et donc, il s'imprègne de son travail. Et effectivement, à 14 ans, il exécute un Picasso dans la journée. Un Picasso de très bonne facture. Ses parents sont ahuris. Et donc, l'encourage à poursuivre.
Alors ensuite, il va avoir une vie un peu dissolue, dirons-nous. Hein. Il va partir sur les routes,
etc.
Il
va faire la route, une vie un peu dissolue. Oui, il va se balader. C'est l'époque.
Oui. Et il va continuer à grenouiller, si je puis dire, dans ce milieu de l'art, dans les antiquités, etc.
Oui, il va vendre, il va faire des petites réparations. Et il va commencer également à...
Petit à petit, on va y venir.
Petit à petit, voilà.
Mais il sent qu'il a quelque chose, qu'il a un coup de pinceau hallucinant.
Il sent qu'il a un coup de pinceau, mais il fait par exemple des œuvres d'art, il les fait en 78 à Munich, il les expose, c'est un petit succès, pourtant il ne persévère pas, il veut faire autre chose.
Il veut faire autre chose et puis ça ne sera pas n'importe quoi, on va le voir tout de suite. Bonsoir Karine Muller.
Moi je suis en Normandie.
Voilà, vous êtes en Normandie, mais vous êtes surtout en ligne dans l'heure du crime ce soir, au sujet du dossier Beltracchi. On va évidemment évoquer toute cette escroquerie gigantesque.
Oui.
Mais un mot tout de suite, Karine Muller, sur... je rappelle que vous êtes quand même galeriste et puis auteur du livre « Quand l'art est pris pour cible » qui est paru aux éditions Prisma, c'est important.
Oui. Oui.
Un mot tout de même, Karine Muller, sur cette arrestation. Est-ce qu'à l'époque, c'est un choc au sein des collectionneurs, des galeries, des musées où les Beltracchi sont quand même connus comme le loup blanc?
Mais bien sûr, ça a été un choc absolument énorme parce qu'il y avait des Beltracchi dans pratiquement toutes les grandes collections et probablement même dans pas mal de musées. Donc ça a été une panique totale, comme dans toutes les affaires de Fosser, parce que tous les grands collectionneurs se sont demandé si leur œuvre n'était pas un Beltracchi. Donc ça a été effectivement une onde de choc qui est allée jusqu'aux États-Unis.
Une onde de choc. L'enquête de police est effectivement suffisamment précise pour détailler la trajectoire de Wolfgang et Hélène Beltracchi. Elle révèle une fabrique de faux tableaux fondée non seulement sur le savoir-faire de l'artiste, mais également sur un extraordinaire mensonge. L'affaire Beltracchi, les Bonnie and Clyde du marché de l'art. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Heure du crime en direct où nous évoquons ce soir l'affaire Beltracchi, le nom d'un couple de faussaires qui a fait une fortune colossale avec des tableaux de maîtres plus vrais que nature. L'enquête révèle une escroquerie réglée dans le moindre détail. Les policiers berlinois, la brigade financière et leurs confrères du crime organisé ont travaillé pendant 4 ans sur Wolfgang et Hélène Beltracchi, soupçonnés de gagner beaucoup d'argent en écoulant des œuvres contrefaites. Ils ont remonté presque toute leur histoire depuis 1992, la date, effectivement, de leur rencontre. Cette année-là, c'est presque naturellement que le couple d'amoureux a fait équipe pour se lancer dans l'aventure du faux. Wolfgang a déjà une bonne expérience des entourloupes et des petits trafics avec un parent. Il a dans sa jeunesse écoulé de fausses antiquités, puis rapidement saisi que son coup de pinceau pouvait rapporter gros. Il a commencé à rajouter des patineurs sur des paysages d'hiver d'un obscur petit maître hollandais, deux toiles qui se sont vendues une fortune, puis a eu une idée de génie. Les vrais faux, c'est-à-dire des œuvres qui n'ont jamais été peintes par un artiste de renom, mais qui auraient pu l'être. une création plus vraie que nature. Wolfgang Beltraki va ainsi commencer à se constituer un catalogue d'artistes français et allemands, pas très connus du grand public, mais rentable. Il devient ainsi le spécialiste des faux Johannes Molzan. Il en vend même un pour 45 000 dollars à la veuve du peintre, heureuse de découvrir un tableau qu'elle ne connaissait pas. Son atelier, tout aussi illégal que discret, prospère. Hélène va être surprise avec quelle facilité déconcertante Wolfgang a pu céder à une maison de vente aux enchères une toile signée du cubiste Georges Valnier, une toile qui n'a jamais existé. Wolfgang et Hélène Beltraki imaginent donc ensemble l'escroquerie du siècle. La voici. Hélène va raconter que son grand-père avait acquis avant-guerre de nombreuses toiles auprès d'un marchand d'art juif, fuyant le nazisme et ayant réellement existé, Alfred Fleischstein. Sur le marché de l'art, le nom de Fleischstein fait tilt. Une grande partie de sa collection dispersée, confisquée, n'a jamais été retrouvée. Hélène Beltraki peut ainsi proposer des Georges Braque, Picasso, Dufy, Derain ou Vandongen, puisaient dans sa cave des toiles perdues qui refont surface, un miracle et une aubaine pour les collectionneurs. Philippe Sprang, je reviens vers vous, spécialiste des enquêtes sur le marché de l'art. Voici donc des tableaux jamais vus qui circulent, tout juste peints en dépit de leur historique. Le stratagème fonctionne. Les Beltraki vont même faire, je crois, circuler une photo qui prouve cette histoire, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que pour montrer l'existence, donc, quand ils vont voir des marchands, ils leur disent « voilà ». Moi, j'ai récupéré ce stock de tableaux de mon grand-père qui est mort, qui m'a laissé ça. Mais ça suffit pas. Elle montre des photos de ses œuvres avec sa grand-mère. Mais c'est pas sa grand-mère qui sont sur les photos. C'est elle qui s'est déguisée en sa grand-mère, qui a mis incroyable. Des photos des tableaux en question, qui a pris un appareil photo de ces années-là, le papier...
C'est Wolfgang qui va la photographier, c'est ça ?
Ah oui, et Wolfgang ou leur compère qui est Otto, un de leurs copains. Oui. Et donc, elle va se mettre en situation avec un petit collier de perles, un chignon tiré, une lumière d'ambiance, les tableaux qui ont été refaits, et dire, voilà, regardez ma grand-mère avec les tableaux.
C'est ça, elle dit aux collectionneurs, voyez, c'est bien la preuve, regardez.
Aux marchands et aux experts, c'est la preuve, regardez. Et donc, du coup, ils ont un petit studio où ils sont, et à chaque fois qu'ils font les tableaux, ils refont à chaque fois le coup. Donc voilà, c'est une petite organisation, c'est bien fait.
En tout cas, il y a une mise en scène formidable, une escroquerie vraiment.
Ben, c'est la deuxième lame, ils commencent par dire, voilà l'histoire, ben, la preuve, la voilà.
La preuve, la voilà. Karine Muller, galerie. Et vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime.
Oui.
Alors, il y a quand même une question importante et centrale. Comment est-ce qu'il fait Wolfgang Beltraki pour que ces toiles soient identiques, pour retrouver tous ces matériaux, ces pigments de l'époque ?
Eh bien, en fait, il va chez les antiquaires et les brocanteurs et il achète des stocks de toiles anciennes. Et tout est dans le détail. En fait, le génie de Beltraki, c'est qu'il connaît parfaitement tout le travail des peintres qu'il a décidé de copier, mais surtout, il ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire qu'il prend des clous rouillés, il prend des toiles de l'époque, et il pousse même la perfection jusqu'à faire expertiser certaines de ces toiles. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai une toile ancienne, mais je voulais savoir est-ce que c'est vraiment une toile du 17e, du 18e, du 19e. Et comme ça, il voit comment les laboratoires fonctionnent. Et il note toutes les remarques que font les laboratoires. Tel pigment ne peut pas être de telle époque. Et donc, c'est absolument scientifique. Mmh. Et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Par exemple, Dufy était gaucher, il peint de la main gauche.
Incroyable.
C'est absolument incroyable. C'est pour ça qu'il y a ce côté fascinant qui fait que certains même le considèrent un peu comme le Robin des Bois de la peinture. Parce qu'après tout, c'est surtout des grosses fortunes qu'il a lésées. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été très, très puni. Parce qu'en fait, la peine était quand même assez...
Ça, on verra effectivement, puisque les Beltraki finiront effectivement par être jugés. Donc il y a cette minutie dans l'exécution, un savoir-faire incroyable. Comment passe-t-on, en deux mots, passe-t-on d'un Picasso à un Braque.
Pardon ?
Comment passe-t-on d'un Picasso à un Braque ou à un Dufy ?
C'est un peintre absolument génial. Il savait absolument, à 14 ans, comme l'a dit votre invité, à 14 ans, il peignait un Picasso déjà sans la moindre erreur. Mais c'est un travail absolument colossal. Il avait toutes les monographies, tous les catalogues raisonnés et il analysait le coup de pinceau. Vraiment, c'est un talent. Il a un don.
L'œil et le coup de pinceau. Pendant 20 ans, l'entreprise des faux Beltraki va ainsi tourner à plein régime, les experts n'y voyant que du feu et les clients dépensant des sommes de plus en plus folles. Un détail, un simple pigment va toutefois dérégler le fonctionnement de cette machine parfaitement huilée. L'affaire Beltraki, les faussaires du siècle, l'enquête de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Beltraki. Des faussaires tellement doués et ingénieux qu'ils vont inonder pendant 20 ans le marché de l'art de fausses toiles de maître jusqu'à leur chute en 2006. En ces années 90 et 2000, rien ne semble pouvoir interrompre la marche des Beltraki. La créativité de Wolfgang est inépuisable. Il imagine jour après jour des tableaux qui auraient pu disparaître ou des œuvres qu'on croyait à tort inachevées et qui referaient soudain surface. Il peint ainsi un stupéfiant Max Ernst intitulé « Horde qui sort de la forêt ». Le travail est tellement réussi que le meilleur expert de Max Ernst, Werner Spies, se laisse avoir. La toile est vendue à une société de négoce pour près de 2 millions d'euros. Elle sera ensuite cédée par une galerie parisienne pour près de 7 millions d'euros à l'éditeur Daniel Filippaki, qui l'accrochera dans son appartement new-yorkais. Le 29 novembre, une autre création de Wolfgang Beltraki, un Campendonk, un expressionniste allemand, tableau rouge avec chevaux, change de main pour 2,8 millions d'euros. Mais cette fois, contre toute attente, l'acheteur exige que la maison de vente fournisse un certificat d'authenticité. Une experte spécialiste du peintre est désignée par l'acquéreur. Elle décide de soumettre le tableau à l'analyse d'un laboratoire berlinois. Les tests chimiques affirment que tout est conforme, sauf la présence d'un pigment. 2% de blanc de titane dans cette peinture, un pigment qui n'a été commercialisé qu'à partir de 1938. Alors que l'œuvre est datée de 1914, Beltraki, qui prenait soin pour chaque peinture de n'utiliser que des matériaux utilisés à l'époque, vient de commettre une erreur fatale. La police est alertée, elle va recenser tous les tableaux portant au dos l'étiquette contrefaite de la collection Flash Time. Un travail minutieux, fastidieux, les enquêteurs vont également interroger les proches des Beltraki. Ils ont confirmation que le trésor du grand-père d'Hélène, tous ces tableaux qu'il aurait acquis auprès du marchand d'art avant que la guerre n'éclate, qu'aucune de ses œuvres n'a jamais existé. Il ne reste plus qu'à interpeller les Beltraki. À l'époque, le profit de leur escroquerie est déjà estimé à 22 millions d'euros. On vous retrouve, Karine Muller, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes galeriste, vous connaissez bien, parfaitement même, le marché de l'art. Une question toute simple, on se demande pourquoi les experts n'ont pas détecté plutôt les faux de Beltraki.
Eh bien parce qu'en fait, il n'y avait pas de raison, tant qu'il n'y a pas un doute. Il était suffisamment intelligent pour, dans les catalogues raisonnés, il repérait des tableaux qui n'étaient pas reproduits, où il y avait en fait très peu d'indications. Et les tableaux réapparaissaient. Mais en ce moment, il y a également tout un tas de tableaux qui réapparaissent. Donc on peut aussi se demander à chaque fois si ce ne sont pas des faux. Mais tant qu'il n'y a pas de suspicion, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dit « c'est bizarre », il n'y a aucune raison de faire une enquête.
Je comprends bien, mais question de Béotien, on ne demande pas de certificat d'authenticité quand on achète une toile à 4, 5, 6 millions d'euros ?
Aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'était quand même il y a déjà quelques années. Donc on était moins
vigilant.
On était moins vigilant. Et surtout, la collection Flash Time, c'était tellement plausible. L'histoire était tellement plausible.
Et tellement bien racontée.
Mais tellement bien, avec cette fausse photo, avec les étiquettes qui étaient...
Tout était là.
Tout était là. Donc il n'y avait pas de raison. Je pense que nous, on se serait fait certainement également avoir. Mais heureusement, on n'est pas du tout dans cette catégorie. Mais d'ailleurs, je voulais vous dire, nous sommes la galerie Gimpel et Muller. Et Gimpel vient de récupérer 3 dorins qui avaient été spoliés, puisqu'au début de l'émission, vous avez parlé
bien sûr.
De spoliation.
Oui, puisqu'il a utilisé aussi le biais des spoliations pour expliquer sa collection. Philippe Sprang, je suppose que lorsqu'on découvre ce poteau rose, c'est une gifle pour le marché de l'art.
Ben c'est une gifle, oui, parce que tout le monde se regarde. Et comme c'est un milieu qui est discret par sa nature, on ne sait pas, mais tous les gens savent qu'ils ont acheté à un tel et à un tel. Donc tout le monde se demande qui a un mistigris, qui est-ce qui a acheté quoi. Donc tout est réévalué, tout le monde se regarde. Et comme c'est quand même un métier qui est basé sur la confiance et sur la discrétion, eh ben ça devient extrêmement compliqué. Effectivement, ça secoue les bases du métier.
Ça secoue, et vous dites, on ne sait pas qui a acheté, etc. Mais il y a des sommes considérables qui ont été dépensées. Je parlais de Daniel Filipacchi, qui va garder ce tableau, oui, mais qui l'a peut-être encore, d'ailleurs.
Oui, il y a Daniel Filipacchi qui émet le vœu que, finalement, Beltracchi aille au bout, et puis signe Beltracchi le tableau qu'il a. Et...
Après qu'il ait appris...
Après qu'il ait appris.
Qu'il a appris cette histoire.
Oui, tout à fait.
Donc là, c'est un tremblement de terre, on peut le dire, dans le marché de l'art à ce moment-là.
Oui, parce que, comme je vous dis, c'est une question de confiance, et puis c'est des grands musées, en plus c'est des grands experts. Enfin, Spice, c'est une vedette absolue de Max Ernst.
Le fameux expert, enfin,
ouais. Et plein d'experts, et, donc ça remet...
Il regrettera d'ailleurs, il dira, je me suis fait avoir.
Mais tous, ils diront, mais lui s'est fait... Et ben, bien sûr, c'est ça les escrocs, ils vous endorment.
Fin de partie pour les Beltracchi. Ils n'échapperont pas à un procès qui s'annonce spectaculaire, mais une nouvelle fois, ils vont plutôt bien se sortir de ce mauvais pas. L'affaire Beltracchi, deux faussaires de génie face à la justice. L'enquête de l'heure du crime ce soir, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime ce soir, l'affaire Beltracchi, deux faussaires allemands devenus richissimes en écoulant des tableaux qui ont trompé le monde de l'art, experts, collectionneurs, musées. Un an après leur arrestation, voici venue l'heure du procès. Ce 5 septembre 2011, la foule se presse dans la salle du tribunal correctionnel de Cologne. Tout le monde est venu voir les Bonnie and Clyde du marché de l'art, auteurs d'une arnaque qui a prospéré pendant des années. Des œuvres d'art vendues à des prix astronomiques, des faux parfaits. Wolfgang Beltracchi, cheveux longs, allure de rockstar, embrasse son épouse Hélène. Le faussaire est volubile. Il dénonce, dit-il, la cupidité et l'arrogance d'un marché, celui des œuvres d'art, qui a perdu la raison, où les spéculateurs sont prêts à tout pour réussir un bon coup. Les Beltracchi n'auraient fait que se faufiler dans cette faille de plus en plus béante. Le procès, prévu pour s'étaler sur 6 mois, 160 témoins cités, promet d'être spectaculaire. Il pourrait être aussi l'occasion de révéler certains rouages mystérieux du marché de l'art, placés sur la sellette des dizaines d'experts charmés par le couple Beltracchi et qui n'ont rien vu. Des œuvres qui ont passé sans la moindre anicroche tous les contrôles pour être cédées au prix fort. Mais ce procès-là tourne court. Après un mois d'audience, le juge annonce que les Beltracchi ont signé un accord. Ils plaident coupables pour avoir contrefait seulement 14 tableaux. Les peines sont plus que modérées, 6 ans de prison pour Wolfgang, 4 pour Hélène, peine qui plus est aménageable. Même le chef d'enquête de la PJ berlinoise, le commissaire René Allong, sera surpris par cette mansuétude. Le couple retrouve la liberté en 2015, officiellement ruiné et obligé de vendre certaines propriétés pour rembourser quelques acheteurs qui en ont fait la demande. Histoire sans grande morale, puisque les Beltracchi, partis vivre en Suisse, continueront à exploiter à fond leur notoriété de roi de l'escroquerie, livres, photos, shows, télé. Wolfgang Beltracchi restera plutôt satisfait de son coup en déclarant qu'un jour, alors qu'il cherchait l'inspiration en visitant une rétrospective consacrée au peintre Derain à Lausanne, il était tombé sur l'un de ses tableaux, à lui. Philippe Sprang, les Beltracchi reconnaissent 14 tableaux qu'ils auraient contrefaits, c'est tout de même l'accord passé avec le tribunal, il n'y en a plus que ça.
Oui,
le chiffre est beaucoup plus important.
Oui, des confrères allemands, Stepanov, ils ont calculé qu'il y en avait 70 en tout, après il y en a peut-être plus.
Est-ce qu'on sait où ils sont, ces tableaux?
Il y en a, on n'en sait pas, mais on sait qu'il y en a dans les musées, on sait qu'il y en a, voilà, tout le monde un peu partout. Après, tout le monde se regarde.
Mmh, voilà. Et dans des collections privées, énormément aussi.
Pas mal, quelques-unes, bien sûr. Elles représentent le marché de l'art, en fin de compte, là où vont ces toiles, enfin, normalement. C'est-à-dire les musées et les collections privées.
Karine Muller, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes galeriste et auteur du livre. Je le rappelle, quand l'art est pris pour cible, est-ce qu'on peut expliquer cette mansuétude qui a été accordée au Beltracchi lors du procès? Parce que finalement, c'est pas très cher payé, si je puis dire, une escroquerie de ce niveau.
Non, ce n'est effectivement pas très moral, mais je pense que ce sont des gens qui avaient un tel art du mensonge et de la mise en scène que ça les a rendus sympathiques. Vous savez, il y a toujours une fascination pour certains, certains malfaiteurs.
Bien sûr, les Robins des Bois.
Les Robins des Bois, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a ce côté aussi de se dire, en fait, ce n'est pas si grave, parce que les personnes qui ont été lésées, ce sont des gens qui en avaient les moyens. Il y avait par exemple l'acteur Steve Martin aussi, qui a été une des victimes. Et ça, ce sont des victimes juste qui ont osé, entre guillemets, le dire.
Qui ont osé reconnaître et en parler, ouais, c'est ça.
Ben bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'autres grands collectionneurs qui enfin, c'est quand même un petit peu humiliant de se dire qu'on s'est fait avoir.
Et c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas porté plainte contre les Beltraki.
Mais bien sûr, parce que ça veut dire reconnaître d'avoir un faux. Parce qu'après, quand le verdict tombe, vous avez perdu une somme d'argent colossale. Alors là, alors que maintenant, ils vont se dire, bon, on va laisser le temps passer, et dans 10 ans, dans 20 ans, on aura un petit peu oublié cette histoire, et on ne va pas forcément passer mon tableau au rayon X. Parce qu'évidemment, ceux qui ont été expertisés, ce sont des expertises qui sont extrêmement coûteuses.
Bien sûr.
Et tout le monde ne le fait pas. Et puis, n'a pas non plus l'idée... Et les musées, vous pensez bien que les musées ne vont pas s'amuser non plus à faire expertiser leurs tableaux. Et
évidemment. Philippe Sprang, est-ce que ces faux Beltraki, vrais faux, je ne sais pas comment on doit les appeler, est-ce qu'ils ont une valeur aujourd'hui?
Pour le coup, il y a plusieurs personnalités qui viennent. C'est le dernier chic, c'est de se faire tirer le portrait par Beltraki. Donc je pense que ça va avoir une valeur de toute façon historique. Et donc de toute façon, lui, c'est imposé. C'est comme les anciens, les portraits de que faisait le gars qui faisait les faux, comment il s'appelait, l'expert de Göring.
Ah bon, oui, voilà, c'est possible.
Van Meegeren.
Voilà. Van Meegeren qui a été un
Van Meegeren.
Qui, ouais. Vous venez à notre secours, Karine Muller, avec votre science du marché de l'art. Donc qui a été aussi un grand faussaire. Karine Muller, est-ce que cette histoire qu'on vient de raconter, cette escroquerie hallucinante, est-ce que ce serait possible encore aujourd'hui? Vous avez
sûr.
Un peu défloré la question tout à l'heure, mais est-ce que c'est encore possible?
Bien sûr, il y en a certainement. Disons que là, ça fait un moment que j'ai pas travaillé sur le sujet, mais vous savez. Dans l'informatique, tout devient de plus en plus... les antivirus sont de plus en plus forts, mais les hackers sont de plus en plus forts. Et chez les faussaires, c'est la même chose. Parce que chaque affaire, on apprend beaucoup de choses, et les faussaires sont de plus en plus méfiants.
Ouais.
Et là, le blanc de titane, donc cet oxyde qui
oui,
qui l'a trahi...
Le fameux pigment qui va...
Voilà, le fameux pigment qui, en fait, a tout déclenché, c'était quelque chose de totalement idiot, ça permettait d'éclaircir les couleurs, et c'était très stable à la lumière, donc il l'a utilisé sans penser qu'il avait 30 ans d'erreur.
Oui, c'était une petite faiblesse au passage.
Exactement.
Karine Muller, encore une question. Est-ce que ce genre d'escroquerie, qui est tout de même massive, hein, il est rarissime d'avoir une escroquerie de telle ampleur sur le marché de l'art, est-ce que ça a une incidence sur la cote, sur les ventes, sur la mode pour certains tableaux ou certains peintres?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que ça reste quand même, vu le nombre d'œuvres qui circulent, ça reste quand même un petit peu anecdotique. Donc je ne pense pas. Par contre, évidemment, maintenant, toutes les œuvres, les collectionneurs essayent d'être beaucoup plus vigilants, parce que ça laisse un précédent. Mais non, ça n'a... Et en plus, je me dis même que peut-être ça peut donner de la valeur à certaines œuvres, parce que du coup, c'est une œuvre qui a une vraie histoire.
C'est une œuvre qui a une vraie histoire. Depuis cette affaire, est-ce que les contrôles se sont affermis, si je puis dire? Est-ce que les experts sont beaucoup plus vigilants? Ça a servi de leçon?
Oui, surtout toutes les œuvres qui ont été peintes avant la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a vraiment une vigilance extrême. Et c'est... nous ne sommes pas non plus des spécialistes de ces artistes, parce que nous sommes plutôt au XXe siècle. Mais pour les œuvres vraiment anciennes, il y a des contrôles extrêmement forts. Et il faut beaucoup, beaucoup de certificats. Mais c'est plus en raison des spoliations qu'en raison des faux.
Les leçons donc de l'affaire Beltraki. Merci beaucoup Karine Muller d'avoir été au téléphone dans l'heure du crime ce soir. Merci beaucoup Philippe Sprang d'avoir été dans le studio de l'heure du crime avec nous, dans l'heure du crime consacrée ce soir à l'étonnante histoire des Beltraki, les Bonnie and Clyde du marché de l'art. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, je signale la sortie d'un livre, Les génies du faux de Cathy Robin, et qui vient de paraître aux éditions EPA. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime un petit peu raccourcie ce soir à cause du foot avec nous.